من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، أما بعد، donc aujourd'hui on se retrouve une fois de plus par la grâce d'Allah Ta'ala pour notre cours de fiqh, fiqh al-ibadat, la jurisprudence dans les adorations. On a déjà expliqué que le terme jurisprudence est un terme qui a d'autres significations, qui peut comprendre d'autres choses que le fiqh, comme ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Donc c'est bien de préciser fiqh al-ibadat, la jurisprudence dans les adorations. طيب. Alors, أين وقفنا في الدرس السابق؟ Alors, nous allons reprendre la parole de l'auteur, puis la parole de notre cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, comme à l'habitude. Vraiment, cheikh Al-Fawzan, pour vous simplifier le madhhab al-hanbalite, et comme cheikh Al-Fawzan, il mentionne que le madhhab al-hanbalite, ou al-hanbali, comme ça, on est fixé, et ensuite on va voir avec Cheikh Al-Uthaymin, on voit avec Cheikh Al-Uthaymin si le madhhab al-hanbalite, on va prendre sa position dans l'absolu, c'est eux qui ont raison, etc. Ça, on le voit avec Cheikh Al-Uthaymin. Comme par exemple, pour vous, vraiment vous faire comprendre cette manière d'enseigner, cette méthodologie, c'est que comme par exemple, aujourd'hui on va voir une question religieuse qui pour le madhhab al-hanbalite, c'est wajib, c'est obligatoire, et celui qui ne le fait pas, il a un péché, et on verra que l'eau, eh ben, elle n'a plus son état de pureté. Vous verrez le détail à la suite. Ça, c'est selon l'école Hanbalite. Mais, est-ce que ce n'est pas une meilleure méthodologie de rajouter, aller plus loin que l'école Hanbalite et de dire, comme on fait nous, que sur cette mas'ala, bah, l'école Hanbalite, ils sont tout seuls. Il y a le Jumhur, la majorité des savants, qui disent non. Qui disent non, c'est préférable, mais pas obligatoire. Et si la personne le fait, elle n'aura pas de péché. Donc, est-ce qu'on vous laisse comme ça, juste avec le madhhab Hanbali? C'est pas, il n'y a pas de souci, on peut, hein. Ou est-ce que c'est bien pour vous, pour être plus large, qu'on vous dise que, attention, ça c'est l'avis du madhhab al-hanbalite, mais la majorité des savants ne sont pas de cet avis, et en plus ils argumentent. C'est bien argumenté. Wallahu a'lam. Donc là, c'était juste pour vous donner, et vous allez voir la mas'ala en question. On va l'étudier aujourd'hui, on va la voir. Pour vous dire que cette méthodologie, d'ailleurs, c'est celle de Cheikh Al-Utsaimin dans Zad al-Mustaqna. C'est pas. Nous, on l'a tiré de Cheikh Al-Utsaimin, de son enseignement. Et encore, on vous l'a simplifié parce que Cheikh Al-Utsaimin, quand il détaille une question, une argumentation par exemple, il va jusqu'au bout. Et nous, on fait le tri. On fait le tri, ce qu'on peut donner aux élèves et ce qu'on réserve pour plus tard ou autre. Taïb, si vous préférez, il y a beaucoup de choses. Souvent, dans toutes les matières. Hein. Dans toutes les matières, si vous préférez, on l'a dit depuis le tout début, dans toutes les matières, on simplifie. On a une méthodologie de simplification. Parce que dans chaque matière, souvent, c'est pas dans l'absolu, hein, il y a des choses techniques. Des fois, on les dit pas. On ne les dit pas, ces choses techniques. On dit plus tard, on laisse les élèves acquérir un niveau supérieur, et là on rentrera dans le technique. Mais pour l'instant, déjà si on leur facilite bien les bonnes bases, et ce n'est pas des bases de bébé, hein, ce n'est pas des bases de bébé, walhamdulillah, déjà, mashallah, mashallah. Et avec ces bases-là, après on viendra construire. Comme vous le savez, on l'a expliqué, réexpliqué, on le réexpliquera pour que ça rentre et que ça soit un automatisme. La science, ça se prend de tout en bas jusqu'en haut. Mais si quelqu'un il veut commencer au milieu ou en haut, il va glisser, il va tomber. Il va glisser, il va tomber. Alors ça va être un petit peu, comment on dit en français déjà? Tellement c'est pas un mot de mon vocabulaire et que je suis pas comme ça, qu'on n'est pas comme ça, on est loin de tout ça, que ça y est, il est sorti le mot. Ça va être un petit peu ironique, ce qu'on va dire, mais c'est comme certains qui ont voulu rentrer dans les mises en garde. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Pour ceux qui ont suivi, ceux qui ne suivent pas, alhamdoulillah, hein, ce n'est pas une obligation d'être derrière tout ce qui se passe. Hein. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y en a qui ont voulu rentrer dans les mises en garde, jouer le bureau des. Le bureau de surveillance, des prêcheurs ou je ne sais quoi, des mises en garde. Bah, c'est retombé sur eux. Alors pourquoi je vous dis ça? Par rapport à la règle précédente chez les ulama qu'on vient de vous citer, la science, comme le disent les ulama, yabda bisarir ila al-kabir. En fait, c'est une expression pour dire que ça commence de tout en bas et tout doucement tu montes et t'apprends. Tu fais un livre de débutant, t'en fais un autre de débutant, tu vas faire un autre livre d'intermédiaire, tu vas faire, et ensuite tu vas commencer des livres de plus qu'intermédiaire jusqu'à ce que tu vas arriver, par exemple, dans le fiqh al-hanbali, tu vas arriver au mourni. Kitab al-mourni. Mais il y a des gens, ils ont voulu directement, ils sont ni toulab al-ilm, ni rien du tout, ils ont voulu directement aller dans Kitab al-mourni. Et ils se sont cassés la figure. Je ne sais pas si certains parmi vous ont suivi. Ils se sont attaqués à d'autres étudiants qui, eux, se sont donné le temps. Nous, on a dit, on ne va pas se rabaisser à des ignorants et des inconnus. Mais il y a un autre étudiant, lui, ou d'autres étudiants, eux, ils ont pris le temps. Et ils se sont occupés d'eux et maintenant, il y a une mise en garde d'un savant sur eux. Oui, mise en garde maintenant. Voilà, quand on veut jouer dans la cour qui nous est pas. On n'a pas la carte, on n'a pas le passe. Voilà comment ça finit. Et si tu essayes de casser les autres et dévoiler leurs défauts, ce sont les tiens qui vont être dévoilés au grand jour. Et wallahi que nous on a été gentils, on a un dossier, mais on n'a pas voulu dévoiler les défauts des... Ah, Allahu Akbar. Nous on savait déjà ces choses-là. Hein. Franchement, on savait, hein, mais on voulait pas... Nous on s'occupe de l'institut, de la da'wa, après ça va être une bataille... Il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres choses très graves, mais on préfère... Je veux pas que ce soit nous, on veut pas que ce soit nous qui entrons dedans. Il y a des choses encore plus graves. El-Muhim, voilà, hein. On parle d'un sujet, on vous a donné un exemple. C'est que la science, il y a des étapes. Wallah, il y a des étapes. Pour ceux qui font avec nous le hadith, Mustalah al-Hadith, ils ont bien vu que la critique, l'éloge, déjà c'est une science qui remonte à plus de 1000 ans. Non, on va pas dire 1000 ans, astaghfirullah. Peut-être, hein. Peut-être parce que c'est après les trois, possible, oui, c'est après les trois premières générations que la science du hadith, elle a commencé à se... Lorsque les compagnons, même à l'époque des compagnons, ça a commencé, ils ont essayé de... Certains ont commencé à essayer de trafiquer les hadiths, des hadiths mensongers, mawdou', etc. Et là, il a fallu établir des règles. Et parmi ces règles, la critique et l'éloge. Donc vous voyez d'où elle vient cette science, la critique et l'éloge, les règles de la critique et l'éloge qui sont appliquées aujourd'hui. Sur un tel il est bien, un tel il n'est pas bien, tel ceci, un tel cela. Ces règles-là, elles viennent du Mustalah al-Hadith, al-Jarh wa al-Ta'dil. Et il y a des gens qui ne savent même pas, c'est une expression chez les savants, comment on fait les ablutions. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai trouvé une vidéo. Je ne sais pas si elle a été transmise à la sœur, l'étudiante qui voulait. J'ai trouvé une vidéo hein, assez intéressante de Islam Sunnah. Si elle n'a pas été transférée, on la transférera, Inch'Allah. Naam, comme le disent les savants, il y a des gens qui ne savent même pas faire l'eau et qui ne maîtrisent pas l'eau, les ablutions. Et qui entre dans les grands mises en garde. Donc voilà, c'était juste. C'est bien de le dire, hein. Nous, on va pas dire qu'on est content, parce qu'on n'est pas, on n'a pas de méchanceté dans le cœur, mais on va dire qu'on est satisfait de rétablir l'honneur des gens, l'honneur des gens. Alors, on va reprendre. Et l'eau est tahour, qui n'est pas en excès, ne supprime pas l'impureté d'un homme si une femme l'a utilisée pour se purifier de la saleté. On va le lire en arabe, si on le retrouve. Wala yarfa'u al-hadatha. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث. Alors, ça, c'est là où on s'était arrêté dans le cours précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de l'auteur? Qu'est-ce que ça signifie? Masha'Allah. Tayyib. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Tamam. Ça, Inch'Allah. Ça naqra marratan thaniya. Et l'eau pure qui n'est pas en excès ne supprime pas l'impureté d'un homme si une femme l'a utilisée pour se purifier. Attendez, je regarde, est-ce que c'est là? Oui, c'est là qu'on s'est arrêté. Hein. Alors, on va vous dire, Inch'Allah ta'ala, ce que ça signifie. Ça veut dire que l'on peut réutiliser l'eau de la purification de la femme. Masha'Allah. Très bien. Ahsante. Très bien. Allah ybarak. Tayyib. C'est ça que ça veut dire. Non, il n'y a pas de souci, j'avais compris. Abdullah, Cheikh Abdullah nous dit, l'eau qui a été utilisée par une femme et qu'on peut récupérer, je ne peux pas l'utiliser. Elle peut être utile. Tayyib. C'est bien, vous avez compris, mashallah. Mashallah, la hawla, wa la quwwata illa billah. Une femme. Alors, je vais relire. Alors, dans le madhhab, de Hanbalit, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Cette eau est pure pour les femmes, mais pour les hommes, pas pour les hommes. C'est-à-dire l'eau utilisée par une femme pour se purifier elle-même complètement de la saleté, l'impureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un homme d'utiliser l'eau utilisée par une femme pour se purifier. Alors ça signifie que si une femme, on a parlé déjà d'utiliser de l'eau, une femme elle fait l'eau, les ablutions. Pas l'eau qui est dans le récipient, mais l'eau qui tombe de ses membres quand elle fait l'eau d'eau. Admettons qu'ils vont retomber dans un récipient, qu'ils vont retomber dans un lavabo ou un n'importe quoi, dans l'ina, dans la jarre, ce que vous voulez. Dans le madhhab al-hanbalite, les hommes, il leur est interdit de l'utiliser. Le prophète sallam, a interdit à l'homme, selon le hadith, d'utiliser l'eau utilisée par une femme pour se purifier. Par contre, la femme peut, dans le madhhab hanbalite, utiliser l'eau de l'homme. Alors, on va voir. On va voir ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Et là, vous allez voir pourquoi c'est quand même assez intéressant de mentionner la parole prépondérante. Prépondérante entre parenthèses. Hein. Vous savez pourquoi prépondérante entre parenthèses? Prépondérante par rapport aux juristes. Par rapport au juriste, qu'est-ce qui est prépondérant? Mais ça ne veut pas dire prépondérant dans le sens ça vaut rien, ce que nous dit l'imam Ahmed ou Abu Hanifa, ou on peut dire c'est rejeté, on peut dire mais ça vaut rien, on ne peut pas. Alors pourquoi prépondérante? Mais parce que le savant, même s'il s'est trompé, il sera récompensé pour son effort d'interprétation. Et ceux qui l'auront suivi également seront récompensés. C'est-à-dire que eux, ils ne seront pas blâmés. Taïb? C'est important à savoir. Si tu as suivi un imam en qui tu as confiance, ou alors même, alors en tant que ami, personne de la masse, toi, tu n'as pas la capacité de distinguer entre les preuves, etc. Donc tu vas suivre un savant en qui tu as totalement confiance en sa piété, sa science, etc. Tu vas le suivre. Si lui s'est trompé, tu ne seras pas blâmé. Taïb, si lui s'est trompé, tu ne seras pas blâmé. Je vous donne un exemple. C'est le premier qui me vient. Je n'ai pas été chercher, ça plaît, ça plaît pas. C'est le premier exemple qui me vient. Admettons qu'une personne, elle est convaincue par Cheikh Al-Albani que le sitar, ou le niqab, n'est pas obligatoire. Cette personne, elle a suivi un grand savant de la Sunna qui lui a fait un ijtihad qui sera récompensé, qu'il se trompe ou pas. À la différence, c'est qu'il s'est, s'il s'est trompé, c'est une hasanette. S'il ne s'est pas trompé, il a vu juste, c'en est deux. Double récompense. Taïb. Voilà. L'important, c'est d'être convaincu. C'est pas de choisir ce qui t'arrange. Et on avait déjà expliqué la différence entre ce qui t'arrange et ce qui te facilite. Tu as le droit de chercher la facilité. Mais tu n'as pas le droit de chercher ce qui arrange ton nefs. Ce qui te facilite, alhamdoulillah. Ce qui te facilite, alhamdoulillah. Tu vas vers ce qui te facilite dans ta religion, mais tu ne vas pas vers ce qui arrange ta passion. D'accord? Voilà, on avait déjà parlé de ça. Donc, on avait dit que on allait donner la position de notre cheikh Al-Uthaymeen. Alors, Cheikh Al-Othami nous dit exemple, exemple. Une femme a une quantité d'eau qui est minime. Qui pourra nous dire, dans la législation, qu'est-ce qui est considéré comme une quantité minime et qu'est-ce qui est considéré comme une quantité maximum? Une grande quantité, on va dire. Mashallah. Arsent. Mashallah. Très bien. Très bien. Qullatayn. Aqal min qullatayn. Mashallah. Barakallahu fikum. Ça fait plaisir. Très bien. Très, très bien. Très, 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 très bien. Mashallah. Je pense que tout le monde a assez de points par rapport au... Barakallahu fik, Cheikh Abdallah. Par rapport aux points dans les bulletins, je pense que tout le monde en a en plus. Les personnes ici qui ont donné des réponses, s'il leur manque des points, on leur en rajoutera. Inch'Allah ta'ala. Mais je pense que... Ça va aller, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, pourquoi je vous ai demandé cette précision? Déjà, pour faire une petite révision pour les élèves qui n'ont pas trop, peut-être trop bien suivi ou quoi que ce soit. C'est très important, les questions-réponses. Et également parce qu'ici, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Il nous dit, exemple, une femme a une quantité d'eau qui atteint une qulla, donc une jarre et demie. Une jarre et demie. Wahuayasir filistirah. Donc le cheikh, il nous dit, c'est considéré comme moindre dans. C'est la petite quantité d'eau dans la terminologie. Et c'est pour ça que je vous ai demandé. En fait, j'aurais dû dire. Une jarre et demie, c'est considéré comme quoi? Ça aurait été mieux. Mais bon, alhamdoulillah, j'ai eu quand même ma réponse. Et j'ai pu constater ce que je voulais constater. Naam. Khallat bihi fil hammam. Fatawadda'at minhu wudu'an kamilan. Donc, elle va au hammam. Elle fait le wudu, les ablutions, entièrement, avec sa quantité d'eau. Puis elle sort et un homme entre après elle. Ba'daha liyatawadda bihi. Et pour qu'il fasse ses ablutions, il veut faire ses ablutions avec l'eau qu'elle a laissée la femme. Naqul lahu la yarfa'ul hadathak. On dira à cet homme, cela ne retire pas ton état de... quand on n'a pas l'eau d'eau comme d'impureté. Hein. La preuve à cela, ici on est toujours dans le madhhab al-hanbalite. Hein. Quelle est la preuve? Le dalil, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit à l'homme de se laver avec le reste de l'eau de la femme. C'est-à-dire de faire al-wudu. Regardez maintenant ce que va nous dire Cheikh Al-Uthaymin. Maintenant, on connaît le madhhab al-Hanbali sur cette question. On a compris. Le madhhab al-Hanbali, eux, l'eau de la femme qu'elle a laissée lorsqu'elle a fait le dos avec, l'homme, il peut pas se faire le dos avec. Taïb, ça, c'est le madhhab al-Hanbali. Ils ont un dalil, ils ont une preuve. Le hadith du prophète, alayhi qui dit, qui a interdit cela. Alors maintenant, regardez ce que va nous dire Cheikh Al-Uthaymin. وَمِنْ غَرَائِبَ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَسْتَدِلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ. رَجُلٌ. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Gharib, c'est comme, c'est très étrange, c'est étrange, scientifiquement, qu'ils aient argumenté pour l'homme qu'il ne puisse pas faire les ablutions avec l'eau de la femme, et pas le contraire. Ils n'ont pas argumenté que la femme ne pourrait pas non plus faire les ablutions avec l'eau de l'homme. Cheikh Al-Uthaymin, il dit que c'est étrange, scientifiquement. C'est étrange. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi ça serait étrange? Ou est-ce que vous voulez que j'explique? Pourquoi c'est étrange que ça soit pas vice-versa? L'homme, il peut pas faire l'eau d'eau avec l'eau de la femme, et la femme pourrait faire l'eau d'eau. D'accord, Inch'Allah. Wallahu a'lam, de ce que nous on connaît, c'est pas mentionné ici. Hein. C'est pas mentionné ici. Mais Allahu a'lam, de ce que nous on connaît, c'est quand le prophète, alayhi salatu wassalam, والدليل نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. C'est qu'en général, la règle, c'est que ce qui est valable pour l'homme ou pour la femme est valable pour l'autre tant qu'il n'y a pas de dalil qui est interdit, qui vient interdire le contraire. C'est pour ça que, si par exemple on parle pour l'homme, on a un hadith qui parle pour l'homme. Interdiction aux hommes d'entrer, je sais pas, au hammam, c'est un exemple, hein, dans les hammamets, les saunas. Hein, c'est un exemple, hein, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans l'absolu. On dira que tant qu'il n'y a pas de dalil qui vient dire que la femme n'est pas concernée, la femme elle sera concernée. C'est comme dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est pour tout le monde. J'espère que vous avez compris. En gros, si c'est valable pour l'un, c'est valable pour l'autre, tant qu'il n'y a pas de preuve qui dit sauf les femmes. Wallahu a'lam, je pense que c'est pour cela une des raisons que Cheikh Al-Uthaymeen, Allahu a'lam, il dit que c'est étrange qu'ils ont argumenté que l'homme ne peut pas faire le dos avec le reste de la femme, et ils n'ont pas argumenté que la femme ne peut pas faire le dos avec le reste de l'homme. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Taïb. Puis, wafikum barakallah. Wafikum barakallah. Également, Allahu a'lam, il n'y a pas de preuve que la femme elle est moins pure que l'homme ou des choses comme ça. Il n'y a pas de. Mais eux, c'est pas dans ce domaine-là. Hein. Ils sont pas partis jusque-là. Hein. Le madhhab al-Hanbalite, eux, ils ont, si vous voulez, fait un ijtihad sur un hadith. C'est tout. Ils ont fait un ijtihad, c'est ça leur ijtihad. Voilà. Puis Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, les Hanbalites, ils ont dit, il est permis pour la femme de se laver avec l'eau de l'homme. Tant que la preuve, elle est. Assalamu alaikum, Ostel, j'ai un peu de mal à suivre. La femme peut utiliser. Alors, le chat, faut que j'appuie dessus. Hop. Attendez 2 petites secondes que je récupère le message. Voilà. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai un peu de mal à suivre. La femme peut utiliser l'eau d'une autre femme. Non, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit, pour l'instant, la femme peut utiliser l'eau de l'homme. Mashallah, la femme peut utiliser l'eau de l'homme qui se purifie avec. Mais l'homme ne peut pas utiliser l'eau de la femme qui se purifie avec. Barakallahu fikoum. C'est ça. C'est comme l'a dit l'étudiante. La femme, l'homme ne peut pas utiliser l'eau qu'il reste de l'eau d'eau de la femme. L'homme, il a pas, il s'est interdit pour lui de l'utiliser. Selon le madhhab al-Hanbalite. Et l'homme, la femme, par contre, elle peut utiliser l'eau de l'homme qu'il reste de son eau d'eau, qui tombe de ses membres. L'eau déjà utilisée pour l'eau d'eau. Mais vous allez voir que ça, c'est le madhab hanbalite. En réalité, c'est pas la parole prépondérante. Wallahu a'lam. Pour Cheikh Al-Uthaymeen, c'est pas la parole prépondérante. Vous allez voir à la suite, il va argumenter. Je pense que vous savez tous que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait le dos avec l'eau qui restait de plusieurs de ses femmes. On va voir ça, inshallah ta'ala. J'espère que vous avez compris, inshallah. Sinon, lorsque ce sont deux femmes, Wallahu a'lam, c'est pas mentionné, mais on va regarder, inshallah ta'ala. Je laisse cette question. Oui, j'ai compris pour l'homme et la femme, barakallah. Je laisse cette question pour la fin, on va vérifier, inshallah, femme avec femme. J'ai oublié. Wallahu a'lam, j'ai oublié. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, tamam. Que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen? Voilà. Donc ça, c'est le madhhab al-Hanbalite. Normalement, tout le monde a compris le madhhab al-Hanbalite. Maintenant, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit ce qu'il apparaît d'authentique. C'est-à-dire, avec certitude pour lui, hein, ce qui est authentique. Was-sahih. C'est que l'interdiction dans le hadith, que l'homme ne se lave pas avec l'eau de la femme, déjà utilisée, ce n'est pas dans le sens tahrim, interdiction. Ce n'est pas dans ce hadith le jugement, l'interdiction, c'est-à-dire at-tahrim, l'interdiction. Mais c'est plutôt pour donner la priorité à ne pas le faire, et c'est une chose détestable. Wallahu a'lam, ce qu'ils nous disent. Selon le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est lavé avec l'eau de certaines de ses femmes qui étaient restées dans un bol ou une assiette creuse. Hein. Djafna, djafnatu, ou djafnatu, c'est comme un bol ou une assiette creuse. Fadja al-Nabi ou Ali salatu wassalam, liyartasil, yartasila bih, ou minha. Le messager d'Allah, hein, après que certaines de ses femmes aient fait les ablutions dans les récipients que nous avons cités précédemment, il a fait l'eau. Il a fait ses ablutions après ses femmes. Pardon. Il y a une de ses femmes qui lui a dit: j'étais en état d'impureté. Djunuban. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a répondu: l'eau, l'eau, la yujnab, c'est-à-dire, l'eau, elle ne prend pas l'état d'impureté. Elle ne prend pas, toi, tu es en djanaba, mais pas l'eau. C'est ça qu'il a voulu dire le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à la femme. Il lui a dit: oui, toi, tu es en djanaba, mais l'eau, elle n'est pas en djanaba. Et ce hadith, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, il est authentique. Donc l'argumentation de ce hadith, c'est quoi? Ben, c'est que le prophète lui-même, il a fait l'eau d'eau après ses femmes, alors qu'elles avaient déjà utilisé l'eau. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: il y a donc une cause ici, une règle importante, une cause, hein, ta'lil. C'est que l'eau, elle ne prend pas le jugement de Djanaba. Si toi tu es en Djanaba ou si toi tu es en état d'impureté ou quoi que ce soit, l'eau avec laquelle tu t'es lavé, elle reste sur sa pureté. Cheikh Al-Uthaymin donc nous dit, ce qui est juste, il va conclure la parole, c'est-à-dire, ce qui est juste, c'est que l'homme, s'il se purifie avec l'eau que la femme a laissée, sa purification est authentique et elle lui retire le statut d'impureté. Ceci est le choix de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Barakallahu fikum. Ceci est le choix de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh Abdallah. Mashallah. Alors, est-ce qu'on répète ou on répète pas ce qui nous a dit Cheikh Abdallah? Ça va faire plaisir aux féministes qu'une chose pour l'homme soit valable pour la femme de manière générale. Mashallah. Ala kulli hal, les femmes, elles le savent très bien. Les femmes, elles sont les premières concernées, elles le savent mieux que nous. Nous, on le sait, hein. Mais les femmes, comme elles sont les premières concernées, ces ambiguïtés qui viennent de tous bords, hein. La femme en islam, elle est rabaissée, elle est ceci, elle est cela. Les femmes musulmanes, qui sont les premières concernées, elles savent très bien que c'est faux. Alors, dans quel contexte? Attention, hein. Attention. Dans le contexte du véritable islam. Je cite, dans le contexte du véritable islam, celui qui se conduit selon le véritable islam avec sa famille, comme l'a commandé le prophète, alayhi salatu wassalam. Naam, c'est sûr, chacun est sur sa condition. Chacun est sur sa, également sur sa pratique de l'islam et sa compréhension. La femme, elle n'aurait pas cet avis, malgré que les femmes connaissent l'islam, mais elle n'aurait pas cet avis si elle a un mari, comment on va dire, bon, je trouve pas le mot, alors on va dire un grand méchant loup qui la met dans une cage. Et on a déjà vu ça, hein. Moi j'ai vu ça à l'Institut de Cheikh Mokbel, Wallah al-Musta'an. On avait un frère, il avait séquestré sa femme. Wallah al-Musta'an. Mouhim. Pour pas partir dans d'autres sujets. Donc en général, les femmes musulmanes, elles savent mieux que tout le monde que tout ça c'est faux. La femme, dans le vrai islam, on vous parle, hein, si les gens pratiquent le vrai islam, la femme, elle est élevée. Je vais vous raconter un récit. Je vais vous raconter un récit. Hein. Un frère que j'ai connu en Algérie, c'était à une époque où il y avait de la neige. Beaucoup de neige en Algérie. D'ailleurs, les gens étaient choqués. De la neige à la capitale, de la neige partout. Donc le frère avec sa famille, il était parti dans un endroit où il y a des chalets, tu peux t'amuser en famille. Et le frère avec sa famille, ils avaient ramené des luges. Donc ils ont fait de la luge. Rien de plus normal. Toute la famille, les enfants, les... Sans tout genre confondu. Tout genre confondu. Faisait de la luge, même le frère lui-même, hein, Multazim, etc. Il y a des gens, ils étaient choqués, ils sont venus le voir. Barakallahu fik akhi, subhanallah, c'est ça l'islam. Ben alors pourquoi? Parce qu'eux, ils sont habitués, Wallah al-musta'an, à voir autre chose. On s'amuse pas, on n'a rien droit de faire, on est enfermé. Il n'y a pas de dalil sur ça. Bien sûr, le préférable, c'est la maison, la prière à la maison, etc. Naham, les mœurs. Les mœurs. Une fois, j'avais mes filles qui faisaient du vélo. Il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit, Achi, le vélo en djelbeb, elles avaient 15 ans. Achi, le vélo en djelbeb. Inch'Allah. Elles étaient petites, hein? Et même si elles sont pas petites, Wallahu a'lam, faut ramener une fatwa. J'ai pas dit qu'il y en a pas, mais je dis si on interdit quelque chose, à la base tout est halal. C'est pas de l'adoration, le vélo ou ou faire de la luge ou se promener, c'est pas une adoration. Vous êtes d'accord? Donc si on l'interdit, il faut ramener un dalil. Moi je veux bien, hein? Moi je veux bien, mais faut que ce soit ilmi. Après, voilà, les ulama, ils ont dit. Je me suis posé la question justement pour le vélo. Comment en faire avec le djelbeb? Mashallah. Moi, j'avais mes filles, quand elles étaient petites, elles faisaient du vélo en djelbeb. Il y a des sœurs ici, subhanallah, en Angleterre. J'ai vu des sœurs, elles vont faire les courses en vélo. J'ai vu des sœurs en djelbeb faire les courses en vélo, mais elles le mettent d'une certaine manière. Elles le mettent d'une certaine manière, le djelbeb. Elles ne le laissent pas traîner, après ça va aller dans les roues. Mais bon, j'ai pas regardé, hein, j'ai pas pris de photos, j'ai pas filmé. Histoire de dire que j'ai pas mis mes yeux, mais j'ai vu des sœurs ici en djelbeb, en vélo, même avec les enfants derrière, avec le siège spécial. Voilà, ils sont pas tous en voiture, hein. Tout le monde n'est pas en voiture. El-Muhim, pour vous dire que il faut être dans un juste milieu. Tant qu'il n'y a pas d'interdit à la religion, il n'y a pas de choses qui sont contraire à la religion. Il est vrai qu'une fois, on avait posé la question, une sœur sur une moto, derrière, et le cheikh, il avait dit non. Il avait dit non. Après, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Parce que ça faisait, oui, à une époque, on avait posé la question. Une sœur en djelbeb en moto, il avait dit non parce que c'était en scooter plus que la moto, hein, parce que le djelbeb il s'envole ou je ne sais plus quoi. Après, faut bien expliquer aux ulama. Faut bien leur expliquer, hein. Ça veut pas dire que cette fatwa elle est absolue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Abdallah? Le problème d'une moto à oustès, c'est que ça cambre le dos pour l'homme comme pour la femme. Donc on voit, a'oudoubillah, les formes du corps. Ah, d'accord. Je sais pas. Barakallahu fik, Cheikh Abdallah. C'est vrai que l'idéal, c'est la voiture, hein. Parce que même la femme, elle est protégée dans la voiture. Protégée, on se comprend. Voilà, en voiture, t'as le hdid, t'as la carrosse autour de toi. Même en moto, tu peux te faire agresser, tu peux te faire. Et la moto, croyez-en l'expérience, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Wallahu a'lam, hein. On sait jamais on a des motards avec nous, on va pas. Taïb. وإن تغير لون أو طعم أو ريحه هو. Alors le cheikh il nous dit, ah, on avait dit qu'on regarderait, on laissera ça pour la prochaine, inshallah, pour le prochain cours, comme on entre dans une autre parole du cheikh. J'avais dit que la femme pour la femme, on allait vérifier. La femme pour la femme, hal yajuz, ou ma hukma, c'est pareil, hal yajuz istirmal, ma Alors, vous m'excusez, c'est la connexion, elle est fatiguée là, sur le portable, donc ça met du temps, ça veut pas se mettre. Habituellement, c'est rapide. Habituellement, c'est rapide. Vous avez besoin de quelque chose. Non, barakallahu fik, jazakallahu khair. Je cherche. Parce que j'ai une manière de chercher, il me faut les quatre écoles. Le khilaf, le jumhur. C'est pas comme ça, on regarde. Et puis. Al-ma. Naham. Al-mustamal. Mar'a min mar'a. Parle du hukm tatahir bi fadl ar-rajul aw mar'a imra'a. Alors, on va voir ça. Que si une femme est seule avec de l'eau dans une pièce, il n'est pas permis à un homme de faire ses ablutions avec cette eau ni de baigner. Est-ce que ce dicton est vrai, hein? Donnez-moi 2 petites secondes, hein, je m'excuse.
J'ai vu également que Cheikh Abdallah il avait une question. به أم لا؟ قال البهاوي وغيره أنا كرهت في الحديث الصحيحة في حنفية وجمهور العلماء. قال أحمد وداود إذا خلت طاهر عن جمهور العلماء، لكن اختلفوا في حكم الوضوء، اغتسل منهم، استعمال المكروه وطهارات وتوضأ به يعني طاهي، لا يرفع الحدث، لا يزول. بون سي با مونسيوني. دونك جو فير اون ريشيرش بور سيت كيستيون باسكو Naham, je n'ai pas la réponse. Naham. Alors, Cheikh Abdallah, désolé, on va faire une recherche pour cette question. Cheikh Abdallah, Mada Yaqoul, j'aimerais votre avis pour le niqab, ustaz, le dalil qati', vous le voyez comme obligatoire ou juste conseillé, barakallahu fikum. Cheikh Abdallah nous dit, d'ailleurs, j'aimerais votre avis pour le niqab, ustaz. Le dalil qati', vous le voyez comme obligatoire ou juste conseillé, barakallahu fik. On a une deuxième question de Sheikh Wafik Barakallah. De Sheikh Nadir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher professeur, comment fait-on pour juger lorsque l'on a deux hadiths authentiques avec deux avis contraires, comme ici avec l'eau des ablutions, autre exemple, avec le fait de poser les mains en premier ou les genoux pour d'autres, est-ce qu'on doit faire les deux parfois, un coup l'un et un coup l'autre, ou choisir celui qui nous apaise notre cœur et qui nous facilite. Donc on va terminer avec ces deux questions. Pour éclaircir les choses, pour éclaircir les choses dès le début, là c'est une question où on me demande ma position. C'est une question où un étudiant nous demande notre position. Ça veut dire que nous, on n'impose rien. Ça veut dire que nous, on ne juge personne. Mais on nous pose la question sur notre position. Donc, on répondra quelle est notre position sur le niqab. Et ceux qui sont convaincus par un autre avis, il n'y a aucun souci. Nous, on nous demande juste notre position, on donne notre position. Tayyib. Donc, concernant le niqab, nous avons été convaincus qu'il est obligatoire. Déjà, on sait le premier dalil, il y en a beaucoup, hein. Le premier dalil, c'est que les savants se basent sur un verset du Coran. Les savants se basent sur un verset du Coran. Et d'ailleurs, ce sont les deux côtés. Ceux qui disent que c'est obligatoire, ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire. Ce sont les deux côtés qui utilisent le même verset, mais dans une compréhension différente. Le verset que vous connaissez sûrement, et je conseille aux sœurs de l'apprendre par cœur, pour ceux qui vous diront le hijab, ça n'existe pas dans le Coran, eh bien vous leur sortez le verset, comme quoi ils sont en train de mentir. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ô, ya ayyuhan nabi, ô prophète, dis, قل لأزواجك à tes femmes, وبناتك à tes filles, ونساء المؤمنين, et les femmes parmi les croyants, يدنين عليهن, والله أعلم, traduction, c'est qu'ils rabaissent, hein, leur voile, Jalababihin, sur eux, sur elles. Alors là, la sourate, Wallahu a'lam, il me semble que c'est sourate Nissa. J'ai pas le numéro, mais je pense que les étudiantes vont vous trouver, Inch'Allah ta'ala, rapidement ce verset. Désolé. De rien, je suis désolé. Alors, les savants ont tiré de ce verset que faire tomber leur voile. Masha'Allah, barakallahu fikoum. Faire tomber leur voile. Ça comprend du haut de la tête jusqu'en bas, y compris le visage et les mains. Il y a des savants qui ont voilà, qui ont fait l'explication du verset comme ça. Et d'autres ont dit non, ça ne concerne pas le visage. Donc nous, on est convaincus que ça concerne le visage et les mains. Tout le corps. Également, on sait que les femmes du prophète, alayhi salatu wa salam, elles avaient le visage couvert. On sait que les femmes du prophète, alayhi salatu wa salam, elles avaient le visage couvert. Oui. Les savants disent que c'est tout le corps, le visage et les mains. Ceux qui disent que le sitar, le niqab, il est obligatoire, ils disent que les mains aussi, c'est obligatoire de les couvrir avec des gants. De ce qui me parvient également dans mon wafik barakallah, dans mon esprit. Et ça, c'est un avis personnel. Mais il me semble qu'il y a des savants qui ont apporté ça, parce que je ne pense pas l'avoir sorti de nulle part, mais de ce que je me souviens, pour ne pas apparaître pour des gens qui... Mais, Wallahu a'lam, il y a des savants qui disent que le visage de la femme, il fait partie de la beauté cachée de la femme. Alors, c'est bien parce qu'au fur et à mesure, les dalils, ça commence à me revenir, l'argumentation, au fur et à mesure. Alors, pour une femme, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il a mon visage? Vous êtes maftoune pour rien du tout. Mais en réalité, hein, les femmes ne sont pas à la place des hommes. Et il y a beaucoup d'hommes, le visage c'est une fitna. Rien que les yeux, même pas le visage. Également, pourquoi ça fait partie de la beauté de la femme? Parce que il y a des savants qui disent que quand tu vois le visage, tu peux savoir, elle est jeune, elle est vieille, elle est jaune, elle est rouge. Rouge, c'est façon de parler, elle est bleue, elle est verte. Tu as déjà un détail sur la femme. Elle est forte, elle est mince. Ça, c'est avec les mains. Croyez pas que je suis un... Attention, hein, c'est ce que disent les ulama. Hein. Croyez pas que je suis un... Astaghfirullah, hein. Moi, je vous dis ce que disent les ulama. C'est comme si on avait un genre de carte d'identité qui renseigne sur des choses de la femme, sur la beauté de la femme. Alors, pour la femme en elle-même, c'est rien. Oh, il est maftoun par mes mains. Oh, il est. Le visage, oui, mais ça fait partie des atours et de la beauté de la femme. Wallahu a'lam. Par contre, j'aimerais préciser une chose très importante. Il y a beaucoup de gens qui insistent, qui font une erreur, en disant que Cheikh Al-Albani, il dit, il n'est pas obligatoire. Ça, c'est une vérité, c'est vrai. Mais ils oublient de mentionner autre chose. C'est que Cheikh Al-Albani a dit qu'il n'est pas obligatoire
Mais il a dit à la suite qu'il est préférable. Cheikh Al-Albani, il a dit, il n'est pas obligatoire, mais il est préférable, le niqab pour la femme. Parce que Cheikh Al-Albani, il connaît très bien les conséquences de l'obligatoire. Ça veut dire que toutes les femmes qui mettent pas le sitar, si on dit que c'est obligatoire, elles ont un péché. Le niqab, pardon. Alors Cheikh Al-Albani, il est conscient de ce jugement. Eh oui, donc il a dit préférable. Pour ceux qui ont étudié Usul Fiqh, vous savez que un obligatoire, si on ne le fait pas, on a un péché. Maintenant, moi, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dirais même, pour pas que c'est bien de dire qu'il est préférable. C'est une position. Mais quelque chose de préférable, c'est quelque chose à ne pas négliger. Le préférable mustahab, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand quelque chose est préférable dans la religion, il faut le prendre. Mais après, on ne va pas rentrer dans le débat de la France ceci, la France cela. On nous a déjà posé la question et on avait répondu qu'il y avait une divergence entre les savants. Il y avait ceux qui disaient, ben, raison de plus à cause de la France qui interdit le niqab de partir, raison de plus pour faire ses bagages. Et il y a d'autres savants qui disent que bah, tu es en France, tu l'enlèves. Tu enlèves le sitar, tu sors pas beaucoup, tu retires le sitar parce que il voit un grand méfait. Police, commissariat, agression et tout ce qui s'ensuit. Donc, eux, c'est une règle dans la jurisprudence islamique de faire passer l'intérêt individuel ou commun avant le danger potentiel ou etc. Donc voilà pourquoi certains savants ont dit, ben là t'es en cas de darora, tu l'enlèves. Alors je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe Fifransa, est-ce qu'il y a toujours les masques ou pas, mais profitez pour ceux qui préfèrent se couvrir le visage, profitez du masque. Nous, je sais qu'en Angleterre, pendant un moment, c'était obligatoire le masque. Maintenant, ça y est. Toutes les règles, elles ont été enlevées. Libération, tout le monde est vacciné, personne n'a de masque. Oui, le masque en tissu, c'est très bien. Oui, alhamdoulillah. On vous dit quelque chose, vous toussez. On vous arrête, on vous dit quelque chose. Ikhlas, c'est réglé. J'ai un masque. Il y a le coronavirus. Alors j'ai un masque. Par contre, nous, on ne va pas jusqu'à dire que celles qui n'ont pas le niqab, elles sont dans le péché. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Moi, je ne dis pas ça. Nous, on ne dit pas ça. Comme je vous ai expliqué, nous, on ne porte pas de jugement sur les autres. Celui qui est convaincu, c'est un khilaf, hein. Mais sachez que, wallahi, wallahi, je vous dis ce qu'il en est dans la législation. L'homme, votre mari, il est plus à même de savoir comment sont les hommes. Attention, pas tous les hommes. Mais les hommes savent qu'il y a une catégorie d'hommes, c'est des loups. Garou. Il faut le dire. Et les hommes savent très bien qu'il y a des genres d'hommes comme ça. Comme les femmes, elles savent qu'il y a des catégories de femmes, c'est je sais pas comment on va les appeler, des mantes religieuses ou j'en sais rien. Alors, si votre mari, il vous demande expressément de mettre le niqab, parce qu'il a de la jalousie pour la religion, pour ça, etc. Il est convaincu. Les savants disent que si le mari est convaincu, la femme, même si elle a une autre position, elle doit prendre la position de son mari. Moi, je vous dis ce qu'il en est dans la charia. Hein. C'est une forme de préservation. Exactement. Est-ce que Mouhim, on va pas. On a terminé notre cours. C'est du fiqh, hein? C'est du fiqh. Ceux qui ne sont pas. Il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'il y a, il y a des loups qui vous regardent, qui vous scrutent, qui. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihada al-qadr. On va se contenter de cela pour aujourd'hui. En vous remerciant, on se rejoint dans une vingtaine de minutes, un peu plus, pour le deuxième cours sur la croyance, al-aqida. On se retrouve demain. Sinon, on se retrouve demain pour la suite des cours. Wabarakallahu fiikum wa hayakumullah. Une faïda qu'on aurait pu dire au début, mais on va la dire à la fin. Une faïda très importante, cher. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà communiqué. Cheikh Abdelazak al-Badar dit qu'une des invocations que le prophète a.s. disait beaucoup, beaucoup, parce que cette invocation, elle est. J'essaie de vous le dire en un mot, parce que lui, il a fait tout un cours sur ça. Sur une seule invocation, plusieurs, mais une seule, en disant que c'est comme si c'était la clé, cette invocation, elle est comme une clé de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Cette invocation, elle est présente également dans le Coran, Sourate al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Rabbana atina fid dunya hasana. Ô Allah, donne-nous dans cette vie d'ici-bas. Les hasanas, c'est les bonnes actions, le bien. Et dans la vie de l'au-delà, wa fil akhirati hasana. Et dans l'au-delà, les bonnes actions, les bonnes œuvres, les récompenses. Wa qina adhab an-nar. Et protège-nous du châtiment de l'enfer. Ne l'oubliez pas et dites-la souvent. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Également, le prophète, il était connu, cette invocation, elle est connue pendant le Hajj. Pendant le Hajj, elle est connue. C'est une invocation qui est mentionnée quand on fait le Hajj. Il me semble, si je me souviens bien, c'est pendant le Safa wal Marwa. Safa wal Marwa. Wallahu a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa ma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.